Bonsoir à tous, nous on va vous présenter le travail qu'on a réalisé en collaboration avec l'association Belle Bouffe et qu'on a décidé d'intituler Poursuite d'expérience, l'évolution des pratiques des mangeurs de produits locaux lyonnais dans un contexte de crise sanitaire marqué par des confinements successifs. Alors, pour nous présenter un peu rapidement, moi je m'appelle Mathias Gomez et je vais me faire un peu le porte-parole du groupe ce soir, mais on a travaillé à trois sur ce projet, donc trois étudiants du Master 2 de psychosociologie avec Evelyne Michaud et Solène Casper. Pour vous en dire maintenant un peu plus sur notre approche, on va revenir ensemble sur une courte définition de ce qu'est la psychologie sociale, qui est l'étude du rôle des facteurs sociaux et environnementaux sur le comportement humain. Avec une idée de départ de cette discipline qui est considérée qu'on est tous des êtres sociaux et qu'on est tous insérés dans un tissu social qui, en fonction de nos relations avec les autres, de nos croyances et de notre environnement de manière générale, va nous emmener certaines contraintes et va avoir une influence directe sur notre manière d'être et sur nos comportements. Alors, pour notre intervention, nous, on est parti de la première enquête réalisée par Belle Bouffe, parlé un petit peu tout à l'heure, et qui a démontré que le premier confinement a bouleversé les habitudes alimentaires pour pas mal de monde, qui ont souvent été contraintes, par exemple, faire leurs courses différemment, de cuisiner différemment et de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles habitudes. Et de notre côté, on a tenté de poursuivre cette expérience en se demandant comment ces changements mis en place ou non par les gens au moment du premier confinement et comment, d'une manière plus générale, les comportements alimentaires des gens avaient pu évoluer avec le déconfinement du 11 mai et avec le deuxième confinement du 28 octobre. Les objectifs de notre étude, c'était donc de réussir à identifier et à comprendre l'évolution des comportements alimentaires dans un contexte de crise sanitaire marqué par des confinements successifs, et d'identifier les motivations et les freins en faveur d'une alimentation locale, donc d'identifier ce qui avait pu amener finalement les gens à mettre en place des comportements qui allaient dans le sens d'une alimentation locale, et de se renseigner aussi à l'inverse sur ce qui avait pu les empêcher de faire ça. Pour faire ça, on a décidé de réinterroger des personnes déjà interviewées lors du premier volet de l'expérience et on arrive finalement à un total de 12 entretiens qui ont été réalisés en visioconférence ou par téléphone pendant le deuxième confinement entre le 3 et le 18 décembre. Au niveau des résultats, on va vous présenter qu'une petite partie de nos résultats, mais on voulait en mettre certains en avant. Le premier, c'est que des changements dans les pratiques d'approvisionnement mis en place au premier confinement ont perduré chez 7 personnes sur 12. Donc, on a par exemple 2 personnes qui ont pris un abonnement à MAP, qui ont souscrit à un abonnement à MAP pendant le premier confinement et qui continuent encore aujourd'hui avec cet abonnement et ce mode d'approvisionnement. On a 2 autres personnes qui ont commencé à aller dans des magasins bio ou dans des épiceries vrac et qui continuent elles aussi à faire ça aujourd'hui. Et on a 3 personnes qui ont redécouvert les commerces de proximité de leur quartier et qui ont aujourd'hui intégré eux aussi ça à leurs habitudes d'approvisionnement. Ce qu'on a pu constater comme point commun entre ces comportements qui perdurent, c'est que c'est souvent les comportements qui sont associés à certaines valeurs et à une forme de plaisir que les gens prennent finalement en réalisant ces nouveaux comportements. Donc on voit que la notion de plaisir est très importante et on voit aussi que le côté pratique est très important aussi et que la praticité est presque une condition vraiment nécessaire au maintien des comportements. Le troisième résultat qu'on voulait mettre en avant, c'est que la crainte de la contamination par le virus, c'est plus vraiment un facteur déterminant dans les pratiques alimentaires de notre échantillon, alors qu'elle était vraiment très présente et assez déterminante au moment du premier confinement dans le comportement des gens. Et le dernier résultat qui nous semblait intéressant, c'est qu'on observe quand même que dans l'esprit de 7 des 12 personnes interrogées, pardon, Les produits bio et locaux restent perçus comme des produits réservés à une classe sociale privilégiée et un groupe social que les personnes que nous avons interrogées qualifiaient parfois de bobos. Finalement, à partir de ces résultats, on s'est ensuite demandé comment on pouvait concrètement agir pour essayer de favoriser l'apparition de comportements d'alimentation locale. Et on a essayé de réfléchir à différentes pistes d'action. La première, c'est l'idée de mettre en avant l'attractivité et le plaisir associé à certaines pratiques d'achat. D'abord parce qu'on a vu que la plupart des personnes chez qui les comportements perdurent, y trouvent un certain plaisir. Mais aussi parce que on sait globalement déjà tous que ces comportements sont utiles pour notre santé, pour l'environnement, pour notre avenir. Mais on avait l'impression qu'on percevait souvent ça comme quelque chose de contraignant, et qui n'était pas forcément associé à la notion de plaisir. Alors que finalement, au travers de notre étude, on se rend compte que beaucoup de gens prennent, du plaisir à manger des produits, à échanger avec leurs commerçants au quotidien et finalement à consommer différemment que ce que peut faire la majorité des gens. La deuxième piste d'action qu'on avait envie d'évoquer, c'est l'idée de populariser et de démocratiser le bio et le local. Donc, avec des actions de communication, par exemple, sur les marchés de proximité, partout dans l'agglomération, dans les lieux d'approvisionnement local, et en insistant notamment sur le caractère pas forcément onéreux de ces produits, qui sont encore très souvent perçus comme des produits réservés à des privilégiés. Et la troisième préconisation, enfin piste d'action, c'était l'idée de s'adapter au contexte des individus, à leur vécu, à leur influence sociale et culturelle et à leur environnement finalement. En proposant des produits bio et locaux directement dans les lieux d'approvisionnement que les gens ont l'habitude de fréquenter, et pas forcément en créant des lieux dédiés pour faire du bio et local, avec l'idée de pas vraiment amener les gens au bio et au local, mais d'amener plutôt le bio et le local aux gens. L'élément important aussi là-dedans et dont on avait envie de parler, c'était de vraiment garder à l'esprit que le contexte de vie et l'environnement des gens est très important et va avoir une grande influence sur leur comportement. Alors, le message qu'on avait envie de dire, c'est qu'il faudrait peut-être, plutôt que de faire reposer le poids du changement, comme on a l'habitude de le faire, sur la volonté des individus, plutôt essayer de réfléchir et de tenter de créer des contextes favorables pour que les individus puissent finalement avoir accès relativement facilement à tous ces produits. Donc voilà, l'importance du contexte, c'était quelque chose qui nous semblait très important. Et on va finir en revenant sur un élément qu'on avait envie de souligner au travers d'une phrase qui est « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », avec l'idée qu'il y a une forte valeur symbolique et identitaire qui est associée à notre alimentation, et qu'on a vraiment pu retrouver dans notre étude. Donc on a interrogé des personnes qui étaient très fières de consommer différemment, enfin de consommer comme ils le faisaient, et d'autres qui au contraire pouvaient se sentir jugées par leurs proches dans des repas de famille ou en vacances par leurs amis, et qui finissent par avoir du mal à assumer les comportements qu'elles ont envie de mettre en place. Alors, le message qu'on avait envie de faire passer derrière tout ça, c'était vraiment d'essayer de faire preuve de tolérance et de faire attention à la manière dont on pouvait parler de l'alimentation des autres, parce qu'on pense que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui nous définit assez profondément. Merci à tous pour votre attention et puis merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour intervenir ce soir dans cette conférence.